Vous écoutez Lesbosson avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir. Notre invité Claude Perriard, alias Claude Lanthrope, est une artiste queer montréalaise. Adolescente, sa carrière débute en chanson, en remportant plusieurs prix dans des concours de chansons de la Nozière et en chantant dans des cabarets de Montréal. Elle s'est fait découvrir en étant finaliste du concours Ma première place des arts en 2010 et en faisant partie du groupe Les Sophilanthropes de 2010 à 2015. Elle complète par la suite un baccalauréat en musique numérique et depuis, elle n'a jamais cessé de créer. Bonsoir Claude Lanthrope.
Allô?
La musique et le désir de la partager en faisant des spectacles est arrivé tôt dans ta vie? De quelle manière ça a commencé?
Bien, j'ai commencé au secondaire. J'étais dans une école secondaire où on avait la chance de pouvoir faire de la musique le midi dans un local. Puis, on pouvait faire des shows dans la chapelle. Donc, assez tôt, je prenais des cours de piano classique déjà à cette époque-là. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité au secondaire de me joindre à la gang de musiciens et de musiciennes, je me suis joint. Puis là, on faisait des shows peut-être une fois par mois ou deux mois dans la chapelle. Puis déjà à cet âge-là, j'ai commencé à composer mes propres chansons. Puis on les arrangeait avec les musiciens à l'école. J'en ai présenté quelques-unes là, déjà au secondaire.
Tu viens de quelle région de la Nozière?
Ben moi, je viens de Repentigny, mais j'ai étudié dans un collège privé à Rivière-des-Prairies. Puis il y avait un local de musique qui était comme offert pour les jeunes, là, qu'on pouvait y aller sur l'heure du midi. Fait que c'était pas mal autogéré. Puis sinon, il y avait comme un technicien qui venait pour monter les shows dans la chapelle. Là, il y avait une petite salle de show puis tout ça.
Qu'est-ce que ton bac en musique numérique a apporté de plus à ton art qui était quand même déjà bien installé?
Ben mon bac en musique numérique m'a comme donné la possibilité de pouvoir m'auto-produire à la maison. Tandis que quand j'avais mon band, j'arrivais avec les chansons, on arrivait en studio, on composait les arrangements de contrebasse, drums, des brass, etc. Puis là, ensuite, il fallait payer des studios d'enregistrement, puis on enregistrait tout en une journée les chansons qu'on avait montées dans les derniers mois en répétition. Donc là, après que j'ai fait mon bac en musique numérique, ma démarche artistique a complètement changé, dans le sens que je me suis monté un petit studio à la maison, puis là, je composais plus dans la solitude, là, mais je pouvais passer comme des soirées, des nuits, seule chez moi, à tout m'auto-enregistrer, puis en y allant vraiment étape par étape, je pouvais passer facilement une semaine sur une chanson, commencer par enregistrer la guitare, ensuite la basse, rajouter un peu d'accordéon par-ci. Donc, les chansons se composaient toutes en studio à la maison.
Ça t'a rendu plus autonome, en fait.
Oui, c'est ça, effectivement, sauf que en même temps, ça m'a un peu isolée, si tu veux, dans la solitude du studio. Puis là, au moment où j'arrive en ce moment, tu vois, ça commence à me manquer de retourner vers plus une démarche de composition en gang, là, avec d'autres musiciens, puis plus en local de répétition.
Oui, parce que tu l'as vécu avec les Sophilanthropes. Vous avez quand même eu du succès. Vous avez été nommé au GAMIC. C'est quelque chose que t'aimes de jouer en gang aussi?
Oui, c'est ça. Pour les shows, c'est vraiment plus le fun de jouer en groupe, je trouve, parce qu'il y a une énergie qui est là, que j'ai moins quand je joue en solo. Après, c'est sûr que de créer seul, ça m'a donné la possibilité d'être vraiment plus productive, là. J'ai comme fait 4 albums en 3 ans. Ça allait très, très vite parce que aussi, ben, j'avais pas besoin de payer de local de répétition. On n'avait pas besoin d'avoir de van ou de conciliation dans le sens que quand tu fais tout ça, ça te permet d'aller très, très vite puis de produire beaucoup plus facilement, je trouve. Mais il manque quand même cet aspect-là de la musique qui est important. Et en fait, que la musique, c'est quand même un art de partage puis un art de communion avec les autres. Donc ça commence à me manquer puis je vais retourner progressivement vers ça là, prochainement.
Comme tu dis, tu produis beaucoup. Tu as déjà une douzaine d'albums à ton actif de différents styles, de chansons, de folk, de pop et d'électro, dont tu assures toi-même tous les instruments puis les étapes de production audio, comme tu disais. Ton dernier EP est sorti le 10 septembre 2021 et s'intitule « Les lumières ont tué la nuit ». Est-ce qu'il a été entièrement créé pendant la pandémie et qu'est-ce que tu avais envie de dire avec cet album?
Ben, c'est un album qui parle beaucoup de l'époque qu'on vit en ce moment. Donc, beaucoup le rapport aux technologies, la manière dont notre vie en ce moment est de plus en plus médiée par les technologies, qui a comme une perte de contact humain, une perte de matérialité aussi par rapport au monde, puis qu'on est en train de cloîtrer un peu dans des rapports virtuels qui, à mon sens, créent quand même son lot d'anxiété et de dépression là, chez les gens. Donc, c'est un peu ça dont l'album parle. C'est effectivement, il a été complètement écrit, composé, produit pendant la pandémie. Fait que c'était vraiment dans ce contexte-là, c'est de solitude et tout ça. Mais en même temps, je voulais faire quand même un album dansant avec des rythmes. Tu sais, je voulais pas faire un album déprimant non plus. Fait que il y a comme un mélange entre des thématiques qui est quand même assez politico-sociales puis un peu négatives là, si tu veux, comme critique. Mais sur des rythmes vraiment enjoués puis dans le sang qui rappelle un peu tu sais les sonorités de la New Wave des années 80 puis ça. Donc mon idée c'était aussi que les gens puissent tu sais avoir du fun à l'écouter à la maison pendant le confinement là.
Ouais, pouvoir danser toute seule dans leur salon en écoutant ta musique.
C'est ça.
Tantôt, tu disais que tu as appris le piano jeune. C'est quoi les autres instruments de musique que tu joues? Et est-ce que ces instruments-là se marient bien avec l'électro?
Ben, dans le fond, j'ai une formation de piano classique à la base. Ensuite, j'ai appris la guitare assez jeune, là, au primaire secondaire, de manière autodidacte. J'ai eu des cours de chant aussi plus tard au secondaire, puis un peu de cours de clarinette. Puis sinon, ben, j'ai appris l'accordéon là, parce que ça ressemble beaucoup au piano. Puis je suis capable de jouer de la basse minimalement parce que c'est assez proche de la guitare aussi. Donc, ça me permet quand même, sans être vraiment experte là, de ces instruments-là, là, j'en joue de manière assez pas médiocre, là, mais t'sais, en tout cas, je suis pas la super bassiste non plus, mais ça me permet au moins d'avoir une base pour être capable de composer mon instrumentation dans mes chansons. Et après ça, pour l'électro, je dois admettre que l'électro, c'est vraiment plus la formation en piano qui a aidé là-dedans parce que c'est pas mal tous des synthétiseurs autant physiques que virtuels. Donc, je me retrouve pas mal à tout composer sur des claviers, comme des claviers de piano finalement. Donc, c'est ça. Mais dans mes albums électro, ça m'arrive quand même souvent de rajouter des basses avec une basse électrique aussi. En ce moment, tu vois, là, je suis en train d'opérer un genre de virage parce que là, l'album sur lequel je travaille présentement, ça va être un album qui est entièrement acoustique. Donc, je me retourne vraiment vers le folk.
Okay.
Puis, il n'y aura rien d'électro. Là. Même, ça va être le contraire de ça. Ça va être tous des instruments acoustiques unplug, là, genre guitare sèche, des violons, des violoncelles, puis tout ça.
Ah, oh, j'ai hâte d'entendre.
Oui, c'est ça. En plus, c'est toutes mes tunes d'amour des 5 dernières années.
Okay.
C'est des chansons que j'avais mises de côté dans les dernières années parce que elles fitaient pas avec mon répertoire électro. Fait que toutes tes chansons un peu plus douces, puis personnelles, intimes, beaucoup écrites pour des amis ou pour des amoureuses. Donc, je les ai toutes comme mises de côté là, dans les dernières années. Puis là, en fin de compte, là, j'en ai 10 dans mon tiroir. Fait que là, en ce moment, je suis en prod pour enregistrer cet album-là. Toutes ces chansons-là que j'avais mises de côté.
Comment tu décrirais l'évolution entre tes albums depuis le début? Parce que tu produis beaucoup, là. T'as vraiment beaucoup de musique à ton actif.
Quand j'étais plus jeune, je trippais pas mal chansons françaises classiques, là. Tu sais, j'ai vraiment trippé Ferry, puis Brassens, puis Brel. Fait que, au début, je faisais de la chanson guitare-voix, là, vraiment plus, tu sais, chansons traditionnelles, là, si tu veux. Après ça, il y a eu la passe, tu sais, musique cigane, gypsy, le jazz manouche, avec l'accordéon, puis tout ça, qui a été c'était bien populaire, là, ce type de musique-là, à une certaine époque. Fait que je me suis mis à faire de la musique plus dans ce style-là. C'est là que j'ai eu mon band. Puis on faisait partie d'une grosse scène underground de folk gypsy, là, si tu veux, comme culminée par l'organisation du Festival du Folk Soul pendant 3 ans au Saguenay. Fait que c'était comme, c'est ça, là, ça m'appose plus comme folk manouche. C'est vraiment inscrite là, dans ce genre de scène underground-là. Puis après ça, j'ai pris un petit pause. J'étais fatiguée, on avait fait beaucoup de tournées, puis on n'avait jamais d'argent, puis tout ça. Fait que je suis rentrée à l'université en électroacoustique pour avoir des savoir-faire, là, pour être capable de mixer, enregistrer, plus des savoir-faire techniques. Puis là, ben, c'est à l'école, dans le fond, que j'ai découvert à la fois la musique expérimentale puis la musique électro, chose qui m'intéressait vraiment pas là, quand j'étais plus jeune. Puis que là, dans le cadre de mes études à l'université, j'ai découvert que j'ai comme vraiment eu la piqûre. Fait que là, avec mes nouveaux savoir-faire aussi que j'ai été chercher là, je me suis vraiment renlignée là-dessus. Ça a été comme une grosse phase, là, tu sais, peut-être les 5 dernières années que j'étais plus concentrée là-dessus. J'ai sorti beaucoup d'albums de musique expérimentale aussi. Puis là, tu vois, je pense qu'avec la musique électronique en ce moment, je sens que, tu sais, j'ai fait un peu le tour dans le sens que j'ai vécu mon trip, là, je sens que j'étais allée au bout de ce que je voulais faire. Donc là, j'ai eu vraiment comme envie de revenir vers la matérialité des instruments, travailler avec des musiciennes en studio, puis de retourner vers quelque chose de peut-être un peu plus intime puis lyrique comme musique. C'est vers ça que je m'en vais. Puis après ça, j'ai aussi un projet, j'ai une maquette pour un album plus rock'n'roll, yé-yé.
OK. Puis ça s'en vient aussi.
Ben là, ça va être dans une couple d'années, là, mais j'ai la maquette qui est en chantier présentement.
Génial. Tu touches vraiment à tous les styles depuis que tu fais de la musique, est-ce que je peux comprendre?
Moi, on dirait que ce qui m'intéresse, c'est de... J'aime ça, m'intéresser à un style. Là, j'essaie de le reproduire, mais à ma manière, tu sais, en jouant avec les codes musicaux de ce style-là. Puis là, à un moment donné, quand je sens que j'ai pas mal fait le tour de ce style-là, ben, je vais comme m'intéresser à un nouveau style musical que je vais recommencer à essayer d'exploiter puis tout ça. Donc, les styles musicaux, ouais, c'est un peu comme mon matériau de base, là, si tu veux.
C'est intéressant. T'as fait un vidéoclip 3D de ta chanson « Je ne suis pas un robot » qui est tiré de ton dernier EP. J'aimerais ça que tu nous parles de cette chanson et du vidéoclip aussi qui l'accompagne.
Oui, donc, « Je ne suis pas un robot », ben juste le titre, là, c'est un petit clin d'œil au CAPTCHA là, qu'on clique sur les sites Internet là, quand il faut signer ou quelque chose. Il faut comme dire « Je ne suis pas un robot », puis là, tu cliques. Mm. Donc, je trouvais ça drôle, justement, dans le contexte de la pandémie, où est-ce que tout était tout le temps médié par l'ordinateur, on faisait tout par l'ordinateur, puis j'avais l'impression que notre vie entière était juste comme canalisée par l'ordinateur. Puis là, j'avais le sentiment aussi qu'on nous demandait aussi de... En tout cas, je sais pas, peut-être pas pour tout le monde, là, mais tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais technicienne, puis ça, puis tu sais, on nous demandait quand même de demeurer productif, même si le contexte était vraiment fucked up.
Ouais.
Tu sais, il fallait continuer à aller travailler, puis il fallait continuer à être productif, puis ça. Fait que c'est comme un peu dans cette logique-là que j'ai été inspirée pour « Je ne suis pas un robot ». Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai contacté, il y a Guillaume Vallée, là, c'est un artiste de la vidéo qui travaille beaucoup avec de la bande magnétique, puis des vieilles techniques analogiques et tout ça, dont le 3D analogique, là, avec les lunettes, tu sais, les oui. vieilles lunettes que t'as un côté bleu, un côté rouge. Fait que là, j'ai proposé, je disais, veux-tu me faire un vidéoclip, on irait filmer au stade, parce que j'habite à côté du stade, moi, puis au stade, en plus, c'est là qu'on allait se faire vacciner, puis ça, puis là, j'arrive au stade, puis là, c'est comme, mon Dieu, on dirait une grosse navette spatiale. T'sais, ça a vraiment le look un peu science-fiction vintage, là.
Oui.
Fait que, dans le fond, là, c'est ça, on est allé filmer le clip au stade avec sa caméra 3D, puis il a tout passé ça sur des bandes magnétiques après. Puis on cherchait à recréer justement un style, c'est vraiment années 80, là, parce que la toune, j'ai essayé d'aller chercher, justement, là, d'aller vraiment dans le style, tu sais, de la pop électro des années 80.
Ça fonctionne, là, avec les lunettes? On peut-tu encore s'en trouver, des lunettes comme ça?
Ben, je pense qu'en ligne, il y a moyen d'en trouver.
Okay. Est-ce que tu l'as écouté avec des lunettes, ton vidéo?
Moi, j'ai pas. Non, j'en ai pas eu, mais okay. J'aimerais bien ça essayer.
Moi aussi, je vais regarder ça. On va l'écouter, « Je ne suis pas un robot » de Claude Lanthrope.
OK.
Dans le front froid,
Nous sommes de retour avec l'artiste multidisciplinaire Claude Lanthrope. On sent que tous les mots et les sons de tes chansons ont leur raison d'être et que tu ne fais pas de concessions sur ce que tu as à dire. Est-ce que la scène underground t'apporte plus de liberté à ce niveau-là?
Oui, tout à fait. Je pense que, de un, ma musique, je pense que ne passerait pas dans les réseaux commerciaux justement parce qu'elle n'est peut-être pas assez formatée d'une certaine manière. Puis pour pouvoir passer sur les réseaux commerciaux en musique, il faut quand même que ta tune puisse passer au Dolorama là, dans une certaine mesure. Là. Moi, personnellement, je préfère vraiment ma liberté de création par rapport au succès, dans le sens que moi, je gagne ma vie comme technicienne de son aussi. Là, donc, mon but, c'est pas non plus de faire des succès commerciaux assez quoi. Là. Moi, c'est important pour moi aussi qu'il y ait quand même une certaine part de critique sociale dans mes chansons, puis que je puisse dire des choses potentiellement dérangeantes ou provocatrices des fois.
Ouais.
J'aime ça faire de la musique, que t'as de la misère à catégoriser dans un genre musical en particulier. Fait que ça, je pense que oui, effectivement, c'est des libertés qui sont permises par le milieu underground de la musique, puis qu'il ne serait pas au sein de l'industrie.
Oui, je comprends. Moi, je fais de la radio communautaire pour les mêmes raisons.
Ben oui, je comprends.
Ce serait quoi tes influences musicales? Tantôt, tu parlais de Brassens, de Brel. Est-ce que à l'adolescence, il y en a d'autres qui se sont ajoutés ou même encore aujourd'hui?
Oui, ben c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment chanson française, là, Barbara et compagnie, Piaf. Ensuite, j'ai trippé musique Bigane beaucoup. Donc, tu sais, Manouche, Cadillacio. Il y avait comme plein de petites bandes dans le bras. Certainement. Il y avait Tom Waits, qu'on a vraiment beaucoup trippé aussi à une certaine époque.
Mm.
Par la suite, on dirait que je me suis plus diversifiée. Là. Maintenant, je peux écouter vraiment de tout. Là. Autant, je peux écouter du Nirvana une journée, puis du Miles Davis le lendemain, beaucoup de jazz, la musique expérimentale. Puis de l'électro, surtout pour les parties, là, je me suis aussi comme découvert une petite passion pour être semi-DJ là, dans les parties. Fait que là, j'ai comme plein de playlists, puis j'ai ma playlist de party, puis avec beaucoup de tunes électro des années 80 que j'aime, là, comme New Order, okay. The Flirt, Kraftwerk, etc.
Tu disais un petit peu tantôt, ton œuvre a un caractère politique, féministe et philosophique. Tu as aussi publié plusieurs textes et poèmes dans des publications indépendantes. Qu'est-ce qui est arrivé en premier dans ton désir de dire les choses à ta façon? Est-ce que c'est les mots ou la musique?
Ben, je pense que c'est vraiment la musique qui a permis les mots.
OK.
Dans le sens que, tu sais, j'ai vraiment commencé par la chanson. J'aurais pas commencé à écrire, je pense, si ça avait pas été d'écrire des paroles de chansons en premier.
Okay.
Mais vu que j'ai commencé à écrire des chansons assez tôt, à 12 ans, là, j'ai écrit ma première petite toune. Fait qu'au secondaire, ça m'a quand même permis de m'intéresser beaucoup à la poésie, là, comme toutes les adolescentes et adolescents tourmentés. J'ai vraiment trippé Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Victor Hugo. Là, je lisais beaucoup de poésie. Puis même à mon école, on avait organisé un festival de la poésie. Puis là, tout le monde écrivait des poèmes. Tout ça. Fait que j'ai quand même continué à écrire des poèmes. Là. J'en écris encore en ce moment. Mais c'est sûr que à la base, l'écriture, c'est vraiment venu de l'écriture de chansons.
Puis en mai dernier, tu as révélé un premier extrait de ton dernier disque qui est intitulé « Allô sexuel ». Qu'est-ce que tu avais envie de dire à travers cette chanson?
Cette chanson-là est vraiment humoristique. Là. Il faut vraiment le voir un peu comme une blague. Ça faisait un moment que je pensais parce que j'avais entendu que la traduction francophone proposée pour le mot « queer », c'était « allô sexuel ».
Okay.
Fait que je trouvais ça vraiment comique. Puis là, déjà, j'avais pensé, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut faire une toune avec des téléphones qui sonnent, puis là, quelqu'un qui répond allô, puis là, personne qui dit sexuel. Fait que ça faisait déjà un bout que je pensais à ça. Puis là, finalement, j'ai fait la toune pendant la pandémie. En fait, c'est ça, les paroles, ça va un peu dans tous les sens, là, mais en gros, ça parle de, bon, de la communauté queer LGBTQ, puis ça dit que, dans le fond, aujourd'hui, tu sais, parce que fut une époque, nos communautés gays, lesbiennes, bi, trans, whatever, étaient quand même assez scindées dans plusieurs petits groupes, comme ben assez séparés là, c'est ça.
Ouais.
Puis, tu sais, le mouvement queer a en tout cas cette volonté-là de rassembler, dans le fond, ces différentes identités-là sous un même toit. Là.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est pour ça que je dis qu'on est aujourd'hui, on est toutes et tous réunis sous le même grand terme parapluie, à l'abri de la pluie, à l'abri de la pluie.
Mm-hmm.
C'est ça, mais c'est vraiment comme un petit clin d'œil humoristique. Là.
On va l'écouter Allô sexuel de Claude Lanthrope. Nous sommes de retour avec l'auteur-compositrice-interprète Claude Lanthrope. Tu as déjà conçu des installations sonores et réalisé des films expérimentaux aussi. Est-ce que tu prévois refaire ce genre d'art-là?
Oui, ben là, en ce moment, justement, je travaille sur une installation sonore. C'est dans le cadre d'une résidence de 2 ans au Centre d'artistes Perte de signal à Montréal. C'est un centre d'artistes en art numérique. Donc, c'est ça, c'est un programme là, d'accompagnement pour les artistes émergents en art numérique. Fait que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une installation sonore interactive qui utilise un microscope comme point de départ.
OK.
Puis là, j'ai des petits unicellulaires. Fait que c'est des organismes vivants, mais qui ont seulement une cellule. Fait que il y en a partout là, de ça. Là. Fait que là, dans le fond, ça, je les filme en temps réel parce qu'il y a une caméra dans le microscope. Puis, dépendamment des couleurs, du degré de luminosité puis des mouvements dans l'image, en temps réel, ça détermine qu'est-ce qui passe au niveau de la trame sonore. Fait que c'est comme si la musique se crée en fonction de l'image. L'image, en fond, c'est ça, c'est le déplacement de ces petits unicellulaires-là dans le pot. Fait que là, c'est ça, je travaille là-dessus en ce moment. Ça va être présenté, je pense, en mars, à Perte de signal. C'est ça. Sinon, des films expérimentaux, j'en ai fait un peu comme ça là, pour m'amuser, pour le fun. Je vais probablement en refaire éventuellement dans ma vie. Là. J'aimerais beaucoup ça, essayer de travailler avec la pellicule de Super 8 parce que c'est des caméras vintage qui sont encore accessibles. Là. Tu peux en louer assez facilement. Puis les films, il y a plein de compagnies qui les développent. Ouais, ça, j'aimerais ça expérimenter ça éventuellement.
Pour ton installation sonore, est-ce que c'est pour ça que tu avais publié une captation vidéo à partir d'un microscope où on peut voir les bactéries cultivées dans une soupe en canne que tu as laissé moisir?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais commencé à essayer de capter des bactéries avec le microscope. Fait que là, je faisais moisir plein d'affaires chez nous. Là. C'était comme ma blonde capotait un peu. Puis là, finalement, les bactéries, c'était trop petit. Okay. Pour les voir au microscope, ou en tout cas, ils bougeaient pas assez, whatever. Fait que là, dans le fond, il y a un ami microbiologiste qui m'a dit « Ah, tu peux essayer avec les unicellulaires, ils sont plus gros, c'est plus facile à voir. » Fait que là, c'est ça, elle m'a amené des nématodes, que c'est des petits vers microscopiques qui ont seulement une cellule.
Okay.
Puis c'est ça, j'ai commencé à poster des petites vidéos sur mon Facebook parce que, en fait, c'est vraiment super joli, l'image.
Oui.
Ils sont vraiment beaux. C'est ça, c'est vraiment impressionnant de les voir grouiller de même. Hein.
Oui, effectivement. On va écouter une autre de tes chansons, L'éternelle recherche. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson-là?
Ah mon Dieu, ça, c'est une vieille chanson. Cette chanson-là, elle parle de notre insatisfaction perpétuelle. Comme quoi, on n'est jamais content de ce qu'on a. On se compare tout le temps, on veut ce que le voisin a. On désire une chose, puis dès qu'on a cette chose-là, ben on en désire une autre.
Oui.
Puis ça finit en disant un peu que, c'est de toute façon, il n'y a rien de... de sacré, là, parce que je veux dire, on va tous finir au cimetière, anyways. En tout cas, je m'en souviens plus trop des paroles, mais il me semble que ça disait quelque chose de même.
On va l'écouter, L'éternelle recherche de Claude Lanthrope.
Je cherche midi à 14 heures, je cherche l'avenue de mon meilleur, je cherche mes vies qui sont ailleurs, et la tanière du bonheur, je cherche le domaine du possible, je cherche à brûler toutes les bibles, je cherche à dire l'indicible, à savoir comment être libre. Tout le monde veut ce qu'il n'a pas. Le désir, je suppose, et dès l'instant où on l'a, c'est pas long qu'on désire autre chose. Tout le monde recherche l'éternel, quelque chose qui ne meurt pas. Mais au bout de tous nos pas, il n'y a plus personne qui va au ciel. Jardin d'Éden, je cherche ce qui vaut la peine. Et si la révolte s'avère vaine, je chercherai à sortir de scène. Je cherche la clé de tous les cœurs, je cherche à retrouver la lenteur. Le pourquoi on nous fait tant de peur, et que chaque réponse est une erreur. Tout le monde veut mieux que le voisin. C'est ça le délire de l'époque, l'insatisfaction est sans fin. Cours pas pour rien, allez, on s'en moque. Tout le monde veut être immortel, mais y a déjà trop de monde sur la terre. La nature n'a rien de cruel, on sera tous bouffés par les vers.
Nous sommes de retour avec l'artiste Claude Lanthrope. Ça fait partie de la sélection de Catherine Jeanne d'Arc le 8 mars dernier pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes sur Influence Franco avec plusieurs autres artistes. Est-ce que tu as déjà collaboré avec Catherine Jeanne d'Arc sur des projets?
Non, J'ai jamais collaboré avec elle sur des projets, mais ça pourrait être intéressant de le faire.
Oui.
Nous, on s'est rencontrés là, parce qu'on avait donné un show aux Catacombes, peut-être 3 jours avant la fermeture de la salle, où est-ce qu'elle jouait avec son groupe Charogne, puis moi, je closais la soirée avec mon set électro.
OK.
C'est ça, j'aime bien. C'est une bonne comparse dans la diversité aussi, puis dans la provocation, fait que je l'aime bien.
Je vous verrais collaborer ensemble.
Je pense que ça fitrait, ouais, vraiment.
Mais tu as collaboré avec Samuel sur la chanson « Hochelaga, mon amour ». Comment cette collaboration a pris forme?
Ben déjà, moi et Sam, on était des amis parce qu'on habitait dans Schlag tous les deux. Puis, il y avait un journal de quartier que des amis faisaient. Là, c'était un petit journal mensuel. Il y avait des activités gratuites. Toutes les personnes du quartier là, étaient invitées à pouvoir poster des affaires dans le journal. Donc, le journal, ça s'appelait « Hochelaga, mon amour ».
OK.
Donc, Sam m'a approché en me demandant « Ah, ça tente-tu? La gang du journal aimerait ça qu'on compose une toune juste pour qu'on puisse comme la chanter tout le monde ensemble quand il y a les journées de lancement du journal mensuel. » Fait que je suis allée chez eux avec ma guitare, puis on a composé ça, tu sais, sur un coin de table là, en peut-être une demi-heure, là, ça a été efficace. On a mis cette vidéo-là sur YouTube, puis c'était la toune pour chanter quand il y avait les journaux qui étaient lancés. Puis là, par la suite, quelques mois plus tard, il y a Carole Lagagnère, qui est une documentaire en cinéma, qui nous a écrit puis qui faisait un film sur la gentrification dans les quartiers de Montréal.
Okay.
Fait que là, elle avait vu notre film sur YouTube en faisant des recherches. Fait qu'elle nous a approché puis elle nous a demandé si on était intéressé à apparaître dans le film, à faire comme un genre de mini vidéoclip dans le cadre de son documentaire.
OK.
Fait qu'on a dit oui, puis c'était vraiment le fun là, d'avoir cette expérience-là. Ils nous ont fait comme on est allé filmer des shots dans le quartier, puis on a joué la toune sur Ontario en se promenant. Ça a comme fait un genre de petit vidéoclip là, qui apparaît à la fin du documentaire qui s'appelle « Quartier sous tension ».
Génial, mais on va l'écouter. « Hochelaga, mon amour » de Claude Lanthrope et Samuel.
« Hochelaga, mon amour » Hochelaga, mon amour. Traîner au parc, sur les balcons. Refaire le monde, monter au front. Sur la promenade, quand il fait chaud. Tout le monde se croise sur Ontario. Hochelaga, mon amour. Hochelaga, mon amour. Jamais besoin d'aller bien loin. Toutes nos amis se retrouvent dans le coin. 1000 dépanneurs, 3000 condos, 10 000 lits de poule, autant de vélos. Hochelaga, mon amour. Hochelaga, mon amour. Les loyers montent, je veux pas te quitter. Ça s'en vient cher de vivre avec toi. Brise-moi pas le cœur, laisse-moi rester. Garde-moi une place à tes côtés. Hochelaga, mon amour. Hochelaga, mon amour. Hochelaga, mon amour. Hochelaga pour toujours.
Nous sommes toujours avec Claude Lanthrope. Comme on disait tantôt, tu produis énormément de musique. Est-ce que tu crées à temps plein? Tantôt, tu disais que tu as un travail aussi.
Ben, dans ma vie, j'ai essayé vraiment de travailler le moins possible pour pouvoir avoir le maximum de temps pour créer. Je m'en suis plutôt bien sortie. C'est sûr que j'ai passé 2 ans sur un programme qui s'appelait Jeunes volontaires là, à l'époque. Là. Fait que ça, c'était vraiment génial parce que le gouvernement me donnait de l'argent pour monter un projet. Là. Ça pouvait être faire un album de musique, whatever. Après ça, ben, c'est sûr qu'à l'université, j'avais la chance, c'est capable de vivre sur les prêts et bourses là, parce que j'habitais en colocation, puis on faisait du dumpster, Puis, en tout cas, j'avais pas des coûts très élevés là, dans la vie. Fait que j'ai pu vivre ces prêts et bourses pendant mon université. Fait que j'étais capable quand même de maintenir ma création à côté. Mm-hmm. Puis, après ça, ben là, dans le fond, le défi, c'est toujours de se trouver des jobs à temps partiel, des jobs 2-3 jours semaine, tu sais, pour au moins avoir une partie de ton loyer qui est safe.
Oui.
Puis après ça, ben c'est sûr que je fais un peu d'argent là, avec mes redevances radio, ma musique, des concerts, des cachets, des résidences d'artistes. J'arrive quand même à en vivre dans une certaine mesure.
Super.
Mais oui, c'est ça, dans les dernières années, j'ai quand même soit gardé des contrats en cinéma ou des jobs à temps partiel pour m'assurer quand même une certaine sécurité. Mais aussi, je dois avouer que j'aurais de la misère à travailler parce que la création, c'est quand même vraiment... Tu peux pas faire ça de 9 à 5 du lundi au vendredi, tu sais.
Non, c'est ça.
Fait que... Tu sais, des fois, un moment donné, quand ça fait 3 jours que t'es chez vous en train de gosser sur une toune, un moment donné, ça te fait du bien là, d'aller faire une petite gig puis d'aller travailler sur un show ou sur un tournage à quelque part. Ça t'aère les idées, puis après ça, quand tu reviens dans ton studio, puis tu réécoutes la toune, ben on dirait que tu l'entends différemment après.
Oui, mais en même temps, le travail que tu fais, c'est encore dans la création. Quand même, tu travailles sur des tournages.
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'en documentaire, puis en fiction, c'est peut-être plus la création. Mais, tu sais, moi, après, ça reste que, tu sais, je suis preneuse de son, là, fait que mon rôle, c'est vraiment un rôle plus technique que créatif, là.
OK. Mais tu restes dans le son quand même.
Oui, effectivement, oui, c'est ça.
T'écris aussi en anglais. On va d'ailleurs écouter ta chanson « Performing Identities » tirée de ton album « Control Z ». Est-ce que tu veux nous la présenter ou peut-être nous parler un peu de cet album-là aussi?
Oui, donc « Control Z », c'était vraiment dans mes débuts là, d'électro. Fait que je commençais là, à gosser avec des synthétiseurs, puis des beats, tu sais, des drum machines pis tout ça. Fait que c'est comme il est vraiment mal il est vraiment mal mixé cet album-là, mais bon, je trouve ça cute pareil parce que c'était vraiment mes débuts là-dedans. Mais ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un trip de chanter en anglais. Je l'ai vraiment pas pris dans le sens que cet album-là, c'était vraiment je me faisais du fun là chez nous, puis tu sais, je l'ai même pas envoyé aux radios. J'ai fait aucune promotion là, pour cet album-là. C'était vraiment juste pour me faire du fun.
OK.
Fait que je suis des fois mes paroles en anglais, il y a des mots que je prononce mal ou il y a genre des erreurs de grammaire puis tout ça, mais j'ai décidé d'essayer parce que je trouve ça quand même cute puis tu sais, on s'en fout un peu là. Fait que non, cette tune-là, ça parle de comment est-ce que on a tendance, malgré nous, à se conformer à des identités qui existent. Fait que tu sais, mettons, il y a du monde qui vont se conformer à « Ah, moi je suis punk ». Fait que là, ils vont s'acheter une ceinture à stud, ils vont se raser les cheveux, c'est teint vert. Il y a du monde qui sont comme « Ah, moi, je suis granole, écolo. » Fait que là, ils vont s'habiller de telle manière. Ils vont acheter du café équitable. Tu sais, ça va vraiment dans... Tu sais, il y en a une multiplicité là, d'identités.
Oui.
Ben c'est ça, en fait, ça m'a comme fait capoter un moment de... Je pense que c'était quand on lisait Bourdieu à l'école, puis... un livre, La distinction, qui parle des cultures de classe. Puis là, c'est ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis là, j'ai comme vu à quel point, dans le fond, tout le monde, on était tous juste en train de se conformer à des identités, dans le fond, qui existaient, puis auxquelles on voulait ressembler. Fait que cette chanson-là parle de ça. Puis, c'est ça.
Bon, on va l'écouter tout de suite, Performing Identities de Claude Lanthrop.
Identities as frames for beings, for structuring our self-image. The race of performing identities, gaining points of social image. Homophobic orientalist hippies, classist bourgeois, hipster queers, snub, elitist, academics, sexist, apolitic, chaos, punks, narcissistic, competitive, anarchist, stupid, liberal, preppies, misogynist, spiritist, butches, fake, fashion, non-binary persons, binary essentialists, transgenders, esoteric, reformist, organic, families.
Nous sommes de retour avec l'auteur, compositrice, interprète Claude Lanthrope. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des concerts de prévus?
Le 22 octobre, je vais jouer au Barfly en première partie de Bad Uncle. Ah, le 13 octobre, je fais une performance de musique expérimentale à l'usine C pour le festival Aquasma.
Okay.
Puis c'est pas mal ça pour prochainement. Là. Sinon, c'est sûr qu'une année, au mois de mars, il va y avoir notre expo au Centre d'artistes Terre de Signal pour avec mon installation sonore. Sinon, je produis mon album folk en ce moment, fait que ça devrait paraître l'année prochaine ou je sais pas, dans un ou deux ans.
On a vraiment hâte d'entendre ça. Et où est-ce qu'on pourrait te suivre pour suivre tes projets justement ou les prochains spectacles qui vont s'ajouter à ceux que tu viens de nommer?
Mon site internet, pour tout ce qui est musique, musique chanson, c'est Claude Lanthrope. Puis sinon, par rapport à mes projets plus en art numérique, puis de art sonore, musique expérimentale, ça c'est sur claudeperriard.wordpress.com.
On va se laisser avec ta chanson Le Retour de Saturne. Merci beaucoup, Claude Lanthrope, pour cette entrevue.
Ben merci à toi, Nathalie.
Ça me fait plaisir. À bientôt.
OK. Bye.
Bye bye.
possible. Souvent ce qui ne marche pas au rythme capital. Tout en haut à la cime, quelque part des quatre fleuves. Trouver le point de départ. On dit que là-haut il n'y a pas de crime qui ne soit légitime. Les vautours entre eux s'abreuvent et concluent des accords. Dans les quartiers malfamés de la ville, le tonnerre gronde. Il faudra viser de nos fronts de leurs talons d'Achille. Des armées de gueux au cœur avide contre l'empire des oligarques. 100 000 David contre quelques Goliaths.
Bienvenue dans le nouveau millénaire. bonus.
Merci beaucoup à notre invité Claude Lanthrope. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. En terminant, je vous invite à regarder la programmation de la 50e édition du Festival du Nouveau Cinéma qui aura lieu du 6 au 17 octobre en salle et du 6 au 31 octobre en ligne. La programmation inclut une sélection de films LGBT, dont le film Bliss de la réalisatrice Enrica Cole, Wheel of Fortune and Fantasy qui a remporté l'Ours d'argent Grand Prix du jury à la Berlinale 2021 de Ryosuke Hamaguchi et les Olympiades de Jacques Audiard. La programmation complète est disponible sur nouveaucinema.ca et nous, on se donne rendez-vous le 18 octobre prochain pour une autre émission de Lesbosons. À bientôt.
CKUT 90.3 FM, Montreal.